Salut les marques et les smarts, vous écoutez Catch Up, l'émission qui analyse, commente et critique parfois les émissions de la WWE. Aujourd'hui, donc, c'est moi, c'est Raphaël qui présente, si vous avez reconnu ma voix veloutée, mais je ne suis pas tout seul pour ce Raw du 10 juillet dernier. Je suis avec Ringside. Comment vas-tu, Ringside?
Ça va bien.
Bah, nous analysons là un Raw post-pay-per-view, puisque la veille seulement, c'était Great Balls of Fire. Donc, normalement, un lendemain de pay-per-view, il se passe des choses. Alors, est-ce qu'il s'est passé des choses?
Des tonnes de choses. Ce qu'on va découvrir.
Des choses. Eh bien, on va commencer directement. Alors, il faut rappeler que la veille, donc à Great Balls of Fire, nous avions eu Brock Lesnar, Samoa Joe, des Braun Strowman, tout ça, on va en parler. Mais pour ouvrir le show, nous avons quand même quelqu'un de big. Il s'agit donc de Big Cass, l'ex-partenaire d'Enzo Amore, qui arrive sur sa nouvelle musique d'entrée, qui est donc assez proprement dégueulasse. Mm-hmm. Et on est d'accord. Et il commence, il se lance dans une petite promotion de heel assez classique. Hein, il commence de suite par dire à la foule « How you doing ?» pour un petit peu l'énerver. Il raconte que lui, il est très très heureux de tout ce qu'il a fait la veille. Hein. Ça l'a fait vraiment kiffer de démonter Enzo Amore. Il a vidé toute sa frustration qu'il avait depuis des années accumulée. Bon, pour bien en rajouter, il nous remonte des photos, il nous remontre une vidéo d'Enzo qui gagne la salle de soins en rampant, hein, portée par des officiels. Ça plaît pas trop au public, hein, qui le traite de asshole. Donc vous traduirez, vous chercherez sur Google Trad. Et ensuite, eh bien, il se lance là-dessus dans une promo assez classique de Hill qui nous promet que lui, bientôt, il sera champion, il sera le meilleur, il sera le plus fort. Il commence à dire que lui, il est le plus grand, parce qu'il fait ses 20 foot tall. Il est le plus fort, genre, il est le plus, mais personne n'est aussi grand que lui, personne n'est aussi grand que lui, personne n'a un pseudo qui commence par Big, gros clin d'œil. Et qui c'est qui débarque là-dessus, Ringside?
Biggie?
Ah non, ça aurait pu.
Ah bah non, il est à SmackDown.
Il est à SmackDown. Le deuxième.
Le Big Show?
Big Show, exactement. Le Big Show.
Oh, oh. Big Show.
Donc le Big Show, on imagine qu'il est un peu énervé par ses propos de Big Cass. Puis il y a aussi un petit passif entre les deux hommes. Bref, il gagne le ring. Les deux se parlent sans trop qu'on comprenne parce qu'il n'y a plus de micro. Et puis après, ils se tapent dans une bagarre que j'ai trouvée assez mou du genou. Hein. Ils finissent au sol. Bref, Big Show reste sur le ring et Big Cass repart. Donc, qu'as-tu pensé de ce segment d'ouverture qui s'achève sur la musique triomphante du Big Show qui n'aura pas trop transpiré ce soir?
Effectivement, il a pas trop, était pas très mobile dans le ring, le Big Show, même s'il a montré un petit peu un jeu différent de ce qu'il nous sort d'habitude, avec des violents coups de genoux là, des coups de poing assez moches, assez méchants. Mais bon, ce qu'il fallait suivre, donc c'est l'arrivée de Big Cass, hein, en tant que catcheur solo. Mec qui fait des promos en opener de Monday Night Raw. C'est marrant parce que son timbre de voix a changé un petit peu, j'ai trouvé plus chevrotant, moins grave qu'à l'accoutumée. Et du coup, moi j'ai pas trouvé ça terrible en fait, hein. il est pas très convaincant ce pauvre Big Cass. Plus ça va, plus j'ai vraiment l'impression qu'ils auraient dû plutôt parier sur Enzo Amore. On aurait eu Enzo Amore qui aurait fait le même type de promo pour débuter Raw, ça aurait été beaucoup plus efficace. Là, on voit bien qu'il manque de charisme. Hein, ce grand Big Cass, hein, il a pour lui que son physique. Pour le reste, et encore, c'est pas un physique bien impressionnant. Hein, il y a juste sa taille qui joue. Mais voilà, ça manque de personnalité. Et puis évidemment, il y a des plus gros poissons que lui, hein, puisqu'on voit le débarquer le Big Show qui reste encore plus impressionnant malgré son grand âge. Voilà, je suis pas convaincu par Big Cass. Je suis curieux de voir le match, mais j'ai l'impression que ça va être une petite purge quand même.
Ouais, moi non plus, je l'ai trouvé pas très très bon, pas très à l'aise. Bon, après, ça reste un rookie, hein, le petit.
C'est ça.
Il va apprendre. Mais en tout cas, a priori, pour ceux qui espéraient une longue feud fratricide, bon. Enzo Amore nous vend qu'il a été bien tabassé la veille, donc c'est normal qu'il soit pas là. Mais a priori, Big Cass enchaîne directement. Hein. Je pense pas qu'on ait de revanche et de belle entre les deux anciens partenaires.
Ouais, on va voir dans le futur s'il y a un retour prévu de Enzo, mais C'est plutôt Bicasse qui prend le devant là, donc on va partir là-dessus, mais je suis pas sûr, je suis vraiment pas convaincu que ce soit le bon choix hein, pour la WWE, mais bon, si
Bah.
se borne à faire ça, c'est là que vraiment je vois pas finalement l'intérêt de les avoir séparés parce que c'est vraiment moins intéressant de voir Bicasse tout seul. Hein.
Je suis bien d'accord avec toi, et puis le choix du partenaire, de l'adversaire aussi, parce que Big Show, c'est quand même un mec qui a un certain vécu, donc ok qu'il job pour les plus jeunes de temps en temps, mais là s'il se fait lui battre par Big Cass, il sera plus trop crédible derrière, je trouve. Puis bon, parce que Big Show, enfin, on sait qu'il y a eu toute l'histoire avec Shaquille O'Neal en début d'année, mais il continue visiblement à faire de la salle de sport, hein. Les commentateurs n'arrêtent pas de dire qu'il est dans le shape of his life, donc la meilleure forme de sa vie, et à quoi ça va lui servir.
Ben c'est ça, il y a un dernier run pour lui, puisque apparemment il va prendre sa retraite l'année prochaine. Ben si son dernier run c'est contre Big Cass, ben voilà, ça voudra dire qu'effectivement ils investissent sur Big Cass. Ben il y a intérêt à avoir un retour quoi derrière, parce que pour l'instant, c'est comme on le répète, c'est pas très convaincant. Parce que quand même, bon, c'est un rookie, mais il a eu quand même de grosses années derrière de NXT, et on voit pas trop l'évolution dans le ring, quoi. Même si il était à la limite plus convaincant au départ quand il est arrivé à Raw et qu'il avait eu un petit run solo que là maintenant. Donc voilà, à voir.
Ouais, eh bien écoute, on verra cela la semaine prochaine. On va en rester là en tout cas pour aujourd'hui, pour ce soir-là, puisque nous enchaînons directement avec un autre petit nouveau. Il s'agit d'Elias Sanson qui est tout seul sur le ring et qui va nous chanter une petite chanson pour le public de Houston au Texas, puisque nous sommes au Texas. Une chanson qu'il dédie à Finn Balor. Évidemment, une petite chanson qui subit son lot de huées de la part de la foule, qui est très très vite interrompu. Bon, je passe sur le contenu, hein, c'est un peu toujours le même. La chanson est interrompue par Finn Balor, qui lui arrive avec une pop monumentale, et s'ensuit un match entre Sanson et Finn Balor pour régler une petite rivalité qui dure depuis quelques semaines. Bon, sur le match en soi, Finn Balor, il déroule d'abord son arsenal classique, hein, il prend quand même le dessus, il domine, il est meilleur. Mais quand même, il se fait contrer son fameux coup de pied à la volée, vous savez, qu'il porte en courant le long de l'arête du ring sur le catcheur qui lui est dehors, le fameux coup de pied qui avait éclaté la bouche de Roman Reigns il y a quelques semaines. Donc Elias Samson, il est plus fort que Roman Reigns, il arrive à attraper le pied et à faire tomber ainsi Finn Balor. Ensuite, il domine en passant de longs moments à tordre le bras de Finn, mais au final, on retrouve un enchaînement classique, donc coup de grâce et puis victoire de Finn, sans qu'il y ait eu trop de suspense ni trop d'intérêt dans ce match, et sans qu'on sache vraiment encore si Elias Sanson a vraiment quelque chose à montrer dans un ring à part chanter des chansons. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce passage?
Oui, comme tu dis, c'est pas entre les cordes, c'est pas encore très convaincant, hein, ce pauvre Elias. Mais il a pour lui au moins ce personnage qui fonctionne de drifter avec ses petites chansons là, toujours pour démarrer ses prestations. Un Finn Balor toujours populaire. Maintenant, c'est vrai que c'était une. Finalement, on est sur une rivalité de seconde zone qui a pas eu droit à son match en pay-per-view. Et puis, on comprend pourquoi quand on voit le match, parce qu'il y avait rien de vraiment exceptionnel qui en est ressorti. Il est encore vraiment très très limité, j'ai envie de dire, ce pauvre drifter. J'espère que ça s'améliorera pour lui dans le ring, qu'il puisse montrer des choses un peu plus convaincantes à l'instar d'un Baron Corbin par exemple. Mais pour l'instant, c'est encore très 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 léger hein, ce qu'il propose. Et puis on préférait voir Finn Balor aller dans des rivalités bien plus haut dans la carte. Voilà, rien d'extraordinaire non plus sur ce match-là, j'ai envie de dire.
Oui, penses-tu qu'on a été là?
Bah, j'espère que ça va pas aller plus loin.
J'espère en tout cas, oui, je suis comme toi. En tout cas, on enchaîne très vite aussi, puisque Finn Balor, il est à peine en train de partir du ring et qu'il croise eh bien, les nouveaux arrivants qui étaient ses copains récemment, qui ont travaillé avec lui sur. Il s'agit des frères Hardys. Alors, les frères Hardy, donc Jeff et Matt, qui ont perdu la veille, qui ont perdu le fameux Iron Man match tag team contre Cesaro et Sheamus, donc de justesse, mais perdu quand même. Donc là, ils sont pas du tout sur le ring, enfin ils sont en tenue de combat un peu comme toujours, hein. Ils sont vraiment en costard cravate les Hardy, mais ils sont pas là pour catcher, a priori, ils viennent prendre le micro. Ils expliquent un peu que bah, tout le monde aurait tendance à les voir finis. Là, ils n'ont pas réussi à récupérer leur titre. Ils ont perdu, ils ont vraiment grillé leur dernière carte dans cette rivalité. Donc, ils savent qu'on se demande un petit peu qu'est-ce qu'il leur reste à faire. Et c'est là que Jeff Hardy nous glisse subtilement que peut-être qu'il serait bon pour eux de fade away et classify themselves as obsolete. Donc, pour ceux qui, déjà pour ceux qui m'écoutent, vous pouvez remarquer mon formidable accent anglais. Et en plus, pour ceux qui connaissent la TNA, c'est texto les paroles de la fameuse chanson obsolete, qui est celle donc de Broken Matt et de Brother Nero. Donc, la foule réagit immédiatement. Matt surenchérit un peu en continuant sur son lyrisme un peu pompeux en disant qu'ils vont rester là, qu'ils vont faire du magic. Alors peut-être qu'on va pas être sur du broken, mais sur du magic, ils vont peut-être changer le mot. En tout cas, voilà. Ils nous disent qu'ils sont pas finis, qu'ils sont loin d'être finis et qu'ils sont encore là et ils sont là pour rester. Mais ils sont très vite interrompus par, eh bien, Gallows et Anderson qui décidément, depuis qu'ils sont là, ont vraiment la gimmick de briseur de fête et de casseur d'ambiance. Ils viennent se moquer comme ils savent le faire, hein, des rires gras, remarques un peu médiocres, c'est pas très drôle. Et du coup, Matt Hardy leur propose un match immédiatement, bien que, il le souligne, son frère et lui soient un peu cassés du match de la veille, donc un peu
broken.
Et là aussi, on verra, on sait pas trop si ça nous tease quelque chose ou si ils jouent un peu de leur succès. En tout cas, on a un match, donc les Hardy Boys contre Gallows et Anderson. Un match où d'abord les plus vieux commencent par faire très vite le ménage sur le ring. Hein. Ils se font plaisir, hein. Ils font quelques coups qui permettent de dégager Gallows et Anderson. Mais on a une pause pub. Et quand on a une pause pub dans le catch, qu'est-ce qui se passe quand on revient, en tout cas à la WWE? Et ben c'est les méchants qui dominent.
Mm-hmm.
Donc c'est les méchants qui dominent et le match est assez rapide. Et se finit par une victoire de Gallows et Anderson qui arrivent à placer leur finisher sur Matt Hardy parce que Jeff, qui avait été éjecté à l'extérieur du ring, n'a pas eu le temps de revenir. On l'a vu, il s'est rapproché, il allait casser le tombé, mais à une seconde près, il n'a pas réussi à intervenir. Et bah donc, sur ce finish, les vainqueurs, Gallows et Anderson, quittent le ring en pavoisant, hein, ils sont contents, mais ils sont interrompus par... Say yes, the revival qui revient, l'équipe fait son retour. On les avait déjà vus dans coulisses, hein, on s'en rappelle, justement à propos d'Enzo et Cass. Mais ils arrivent et de suite, ils ciblent les frères Hardy et ils les tabassent, comme de bons heels, en passant leur finisher, leur shatter machine sur Jeff Hardy. Donc sale soirée pour les Hardy Boys qui ont pris cher. En même temps, c'est eux qui ont proposé un match alors qu'ils avaient un Iron Man 24 heures avant. Qu'en penses-tu ringside? Est-ce que c'est la fin des Hardys? Je ne pense pas, mais ils ont leur nouvel adversaire désigné, visiblement.
Effectivement, pas une soirée très réussie pour les Hardys, hein, qui se sont fait molester dans tous les sens, qui déjà ils sont arrivés, ils étaient dans un sale état. Donc voilà, ils nous teasent à fond la gimmick broken, hein, avec Matt Hardy qui reprend son petit accent. Mais alors, du coup. Là, ils se font exploser deux fois d'affilée. Alors c'est sympa pour le club, hein, pour Gallows et Anderson qui ont droit à une belle victoire sur les Hardy après avoir été écartés un petit peu de la title picture pendant un bon moment là. Et derrière The Revival qui revient et qui marque le coup, hein, en explosant les Hardy encore une fois. Alors je suis un peu, donc du coup je pense qu'on va partir vers quelque chose entre les Hardy et le Revival. Je sais pas où ça va mener Gallows et Anderson, parce que la ceinture pour l'instant elle est tenue toujours par Cesaro et Sheamus, donc je les vois mal rentrer en rivalité avec Cesaro et Sheamus. Je suis un peu perplexe sur tout ça, mais ça faisait plaisir de voir débarquer The Revival et de voir Gallows et Anderson gagner et de voir aussi les Hardy s'orienter vers le gimmick broken. Donc tout ça est plutôt intéressant, même si j'ai l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens.
Oui, oui, je suis un peu comme toi. C'est pas, rien n'est désagréable en soi. C'est très logique que les Hardy aient perdu. Franchement, là, s'ils avaient gagné après leur match de la veille, ça enterrait encore plus Gallows et Anderson. Bon, c'est vrai que le Revival, sur le principe, ils ont tellement une gimmick, enfin, en tout cas les quelques semaines qu'ils ont fait à Raw de dominateurs, hein, ils s'appellent les Top Guys, que ça fait bizarre de les voir revenir et s'attaquer à des mecs qui justement viennent de perdre leur title shot. Donc, mais bon, c'est heel contre face, il faut bien une opposition. Mais
C'est ça.
du coup, est-ce que c'est les revivals qui vont tellement, tellement battre les hardys qu'on va avoir le broken qui va revenir? Écoute, en tout cas, ça nous donne envie d'en savoir plus, tout ça.
C'est ça, exactement. Ça en donne un petit peu de vie, encore une fois, la Tag Team Title Picture. Même si le titre n'est pas en jeu, contrairement à ce que je viens de dire. Mais non, intéressant, intéressant ce segment. Plutôt une bonne réussite dans la soirée.
Eh bien, continuons, puisque des réussites, il y en a dans la soirée, et notamment nous passons à une séquence qui justement récompense la réussite, puisque nous sommes sur un épisode exceptionnel de Miz TV, et un épisode exceptionnel puisque pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous allons assister à la remise des Mizzies. Mais que sont les Mizzies, vas-tu me demander ringside?
Qu'est-ce que c'est donc ces Mizzies là dont tu parles?
Eh bien, les Mizzies, ce sont des prix qui sont donnés lors de Miz TV. Alors, il n'y a pas pas de définition plus précise. Voilà, et qui sont rendus par le Miz, qui est le présentateur officiel de Miz TV et qui est au milieu du ring, entouré du Mistourage, donc de sa superbe femme Maryse, et de ses deux nouveaux copains, Bo Dallas et Curtis Axel. Et donc, le Miz a trois Mizzies à remettre ce soir. Donc, sans plus attendre, le premier Mizzies qu'il remet pour le belt, donc le meilleur soutien, eh bien, pour la première fois dans l'histoire des Mizzies, c'est une égalité parfaite. Ce prix revient à Bo Dallas et à Curtis Axel. Les deux hommes vont donc se
Wow.
partager le trophée. C'est pas beau, ça?
Alors là, excellent, c'est surprenant.
Est-ce que tu trouves qu'il le mérite?
Je pense, ouais, bah justement, j'aurais eu du mal à les départager. Donc voilà, un bon titre ex aequo, ça fait plaisir. C'est assez exceptionnel.
Et ben, la foule est d'accord avec toi, puisque la foule chante You Deserve It aux deux hommes qui n'ont pas du tout le même look vestimentaire l'un et l'autre. Hein. Bo Dallas
Ah non.
prend pour un espèce de rocker Johnny Depp, je ne sais pas trop comment le décrire. Et Curtis Axel, lui, par contre, il est coiffé comme un premier communiant, et il est beau comme tout. En tout cas, tous les deux sont très contents, très émus de leur prix, mais pas aussi émus que celle qui va gagner le prochain Mizzie, c'est-à-dire le Mizzie qui revient à la plus belle, à la plus sexy, à la plus délicieuse de toutes les femmes de la WWE. Et ce prix, eh bien, c'est incroyable. Il revient à Maryse. Voilà. Un Mizzie pour une francophone. Hein. Moi, en tant que francophone, j'ai été très touché. Mais Maryse, elle était émue aux larmes. Elle s'y attendait vraiment pas du tout. Elle n'avait rien préparé. C'était
Ouais.
touchant à voir aussi. Hein.
Très touchant, très émouvant. Hein. Oui, effectivement, il y a des grands moments comme ça à Raw de temps en temps qui prennent au cœur, qui donnent des frissons. Voilà, bah, cette victoire de Maryse contre toute attente,
Mais c'est pas fini.
exceptionnelle.
C'est pas fini parce qu'il y a un
Ouais, ça
dernier
s'arrête pas
Mizzie.
là, c'est ça.
Et c'est le Mizzie pour The Greatest Man in WWE. Et là, c'est le suspense. Le Miz ouvre l'enveloppe et il dit Dean Ambrose. La foule
Bouhou.
rit. Mais le Miz nous a fait une blague. Il dit, mais non, c'est pas Dean Ambrose, c'est The Miz. Ah, le Miz a
Voilà.
gagné. Donc c'est quand même une remise de prix extraordinaire. Je sais pas ce que tu en as pensé. C'est un très beau résultat.
Ça, l'ascenseur émotionnel, quoi.
Ouais,
Il sort Dean Ambrose comme ça, tu dis non, c'est pas possible. Et puis non, en fait, c'est bien le Miz qui a gagné, heureusement, parce que
c'est ça.
faut donner des titres aux gens qui le méritent, sinon ça n'a aucun intérêt.
Eh bien, le Miz, c'est le seul bah, c'est le plus à l'aise à l'eau, c'est le seul qui va se permettre de vraiment faire une petite promo hein, pour expliquer qu'il est vraiment le plus grand homme de la WWE. Donc, il en profite pour parler de Dean Ambrose. Il dit du mal de beaucoup de gens et il cite des gens comme ça, un peu au pif, des gens qui ont perdu la veille en fait. Il parle des Hardys, il parle de Seth Rollins, il parle de Samoa Joe, enfin de tous ces gars qui avaient promis qu'ils allaient gagner à Great Balls of Fire. Et le seul qui l'a fait, ben, enfin le seul qui l'a fait, non, parce qu'il y a d'autres gagnants, mais celui qui tient toujours ses promesses, en tout cas, c'est le Miz. Mais il n'a pas le temps de poursuivre puisque Dean Ambrose arrive. Dean Ambrose arrive et de suite, sans réfléchir, il le fait souvent, il attaque le Miz, il fonce sur le Miz. Sauf que le Miz n'est pas tout seul, hein, il est aidé par ses best supports. Mais Dean Ambrose non plus ne va pas rester tout seul, puisque sur ces entrefaites arrive Seth freaking Rollins, qui se précipite et qui vient aider son ex-copain du Shield, Dean Ambrose et à tous les deux à faire fuir le Miz en utilisant au passage une jolie chaise qu'ils utilisent pour tabasser le gagnant du Greatest Man in the WWE Midi Award. Donc c'est ainsi que se finit ce segment, hein. Le Midi a un peu fini en sucette à cause de l'arrivée de Dean Ambrose et de Seth Rollins. Qu'as-tu pensé de tout ce passage ringside?
Cacheur de fête, hein, ces deux anciens du Shield là, ouais. Seth Rollins et Dean Ambrose, on était tellement bien à savourer la victoire du Miz, la célébration du Miz. Ouais, encore une fois, le Miz qui utilise un petit peu ce qu'on entend sur Internet, là, puisque au pay-per-view, il n'y a que des méchants qui ont gagné quasiment. Donc voilà, bah, il met ça en valeur, hein, en critiquant tous les perdants du pay-per-view, pour faire une petite promo toujours efficace. Bo Dallas m'a bien fait rigoler quand il a fait son petit speech aussi très émouvant. Et Maryse aussi, qui était excellente, là, jouer la fille qui pleure. Elle est souvent rigolote, hein, Maryse, quand même. On oublie souvent de le mentionner. Il n'y a pas que le physique, elle a quand même un talent aussi pour faire des séquences qui font rigoler. Voilà, Dean Ambrose. Alors, apparemment, c'est pas fini encore avec Dean Ambrose. J'espérais que ça s'arrête, mais non, ça continue. Encore et encore. Et maintenant, on nous rajoute ce bon vieux Seth Rollins dans l'histoire, le plus mauvais face de l'histoire de la WWE. Écoute, je suis curieux de voir la suite. Hein. Je suppose qu'on va avoir des matchs Ambrose Rollins d'un côté, Mistourage de l'autre. Je sais pas s'ils vont rajouter encore une personne dans le lot, mais écoute, ça reste toujours intriguant, le Miz qui fait toujours le job. C'est un peu l'équivalent de Kevin Owens et Chris Jericho à une époque, enfin de Chris Jericho on va dire, puisqu'il a toujours son petit segment, hein, l'équivalent du highlight où il vient faire le show. Et puis il sait comment entretenir une rivalité, même sur une rivalité comme celle qu'on a là contre Ambrose qui dure depuis des mois et des mois, qui était à SmackDown, qui était à Raw. Ça reste quand même intéressant à regarder. Il faut saluer ça, même si souvent la qualité des matchs pay-per-view est peut-être pas au rendez-vous. Mais bon, tout ça, ça reste distrayant.
Ça reste distrayant, en tout cas. Pour Dean Ambrose, ça n'a pas été si kiffant que ça, puisque en coulisses, dans la foulée, il se retrouve avec Seth Rollins et on sent qu'il n'a pas finalement pas tant aimé que ça l'aide de son copain. Il a vraiment envie de régler ça comme un grand, mais on va en rester là pour le moment parce qu'on y reviendra dans la soirée. Pour le moment, je sens, hein, ringside, que ça t'a plu, ce petit passage émotion, et que toi tu es insensible, donc il est temps de parler des filles, si tu es bien d'accord.
J'écoute volontiers.
Bah, écoute volontiers, puisque ce soir, en plus des filles, nous en avons quatre. Nous avons Sasha Banks et Bayley en équipe contre Nia Jax et la championne, la délicieuse Alexa Bliss. Donc, je rappelle la veille, hein, ceux qui n'ont pas vu Great Balls of Fire, Alexa Bliss est restée championne parce qu'elle a refusé le combat et elle est partie. Donc, Sasha Banks a gagné, mais par des comptes à l'extérieur, donc ça ne suffit pas pour prendre le titre. Donc, pour décrire le combat de ce soir, c'est exactement l'exemple type d'un match soit de lendemain de pay-per-view, soit de go-home show, où on fout tout le monde en tag team et ça n'avance pas grand-chose. Nia Jax et Alexa Bliss ont longtemps travaillé ensemble pour tabasser Bayley. Tant attendu un hot tag, mais ce hot tag ne viendra jamais, puisque pendant que Sasha Banks et Nia Jax se tapent à l'extérieur du ring, et que Sasha Banks réussit à éviter un spear de Nia Jax qui, elle, finit écrasée contre les barricades, eh bien, tout ce petit monde qui se bat à l'extérieur distrait un peu Alexa Bliss, qui était largement en train de prendre le dessus, et elle encaisse un petit paquet de Bayley qui vole la victoire comme une petite voleuse qu'elle est. Et donc, ce sont les filles qui l'emportent. Les filles sont contentes, c'est bien, tant mieux pour elles.
C'est les filles qui ont gagné.
C'est les filles qui ont gagné, mais pas les femmes. Il y a une différence, on va dire.
Victoire de fillette.
Voilà, victoire girly de Bayley et Sasha Banks, qui sont d'excellentes copines, qui se font des câlins, des bisous. Les autres sont un peu plus vénères, mais bon, au final, est-ce qu'on s'en fout pas un peu de ce résultat? Qu'est-ce que t'en penses?
Exactement, c'était sans intérêt, genre de match qu'on a vu un milliard de fois, pas exécuté d'une manière franchement parfaite. Ouais, on est vraiment là dans le petit match vraiment classique vu et revu. Est-ce qu'il vaut pas mieux que ça que un segment au micro qui aurait été encore une fois hasardeux et peut-être comment dire malaisant. Donc c'est peut-être pas plus mal, mais en tout cas ça a rien du tout d'exceptionnel. C'est vraiment la facilité pour ce petit match et ce passage des filles. Je crois qu'il n'y a rien d'autre sur les filles dans
Non,
l'émission.
absolument rien.
Si je dis pas de.
C'est
C'est ça, ouais, peut-être. Si, ouais, peut-être Alexa Fox qui fera un coucou, mais c'est plus lié au Cruiserweight. Voilà, on voit qu'ils savent pas trop, ils ont pas trop prévu grand-chose au niveau des weeklies pour les filles, à part sûrement à un moment donné quelque chose de. Un segment autour de Sasha Banks pour un match retour, mais là ils font vraiment le minimum syndical.
Ouais, et puis c'est vrai qu'on tourne toujours sur les quatre mêmes, quoi. Mickie James, on la voit très peu. Emma, elle est pas re-blessée, j'espère, pour elle. Mais bah
Non.
écoute, c'est. Moi je récap.
Bah,
Oui.
il paraît que. Comment s'appelle-t-elle? Dana Brooke a fait un segment dans le kick-off où elle était interviewée là, sur le panel, avec le panel des spécialistes où elle a été catastrophique. Alors peut-être que pour l'instant elle est un petit peu punie et puis du coup toutes les autres sont punies et puis on reste sur les classiques quoi, hein, les quatre main eventeuses de la division
Ouais.
des filles.
Écoute, on va passer. Et tu parlais de malaisant tout à l'heure. On va rester dans les promos un peu malaisantes, puisqu'on va poursuivre une rivalité qui n'en finit plus de ne pas commencer. C'est la rivalité entre Goldust et R-Truth. Donc tout démarre ce soir, en tout cas, par une énième promo dorée de Goldust sur son siège de producteur de cinéma. Et ensuite, R-Truth gagne le ring en chantant What's Up, hein, comme il fait depuis à peu près 15 ans. Et Goldust, lui aussi, arrive parce que enfin, ce soir, on va enfin avoir un vrai match entre les deux pour solder les comptes un peu de cette rivalité qui dure depuis tellement longtemps qu'on ne se souvient même plus vraiment qui a trahi l'autre et pourquoi. En tout cas, le match a lieu et il est dominé quasiment tout le temps par Goldust, hein, qui prend largement le dessus sur R-Truth, hein. Il prend même le temps quand le rappeur est au sol, est un peu KO, de le câliner, de se moquer un petit peu de lui, de montrer sa su supériorité. Bon, R-Truth réussit quand même à contrer en passant une superbe powerbomb. Il reprend le dessus, mais ça reste lent, hein. Ça reste un match de vieux. Et finalement, R-Truth est projeté contre le poteau. Goldust le récupère, lui place son finisher qu'il a beaucoup de mal à placer. Je ne sais plus son nom, mais en tout cas, il a beaucoup de mal à placer le finisher et il arrive à peine à soulever un truth. Et c'est Goldust qui l'emporte. Là aussi, est-ce qu'on clôt la rivalité? A priori, victoire nette et sans bavure. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça, ringside? Qu'est-ce qu'on en pense?
On n'en pense pas grand-chose. On pense que c'était très silencieux dans le public. C'était encore plus silencieux qu'un match des Cruisers. Silence complet dans l'arena. Ça n'intéressait visiblement personne. Effectivement, comme tu dis, un match de vieux et de vieux mid-carders. Donc il y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'était pourtant c'est plutôt un bon catcheur, Goldust. Artruss, il vaut ce qu'il vaut quoi aussi, mais bon le buzz n'est pas là, hein, le hype n'est pas là. Voilà, c'est tout ça pour ça, j'ai envie de dire.
Bah, a priori.
Alors je sais pas si on va avoir Goldust dans une autre rivalité avec quelqu'un d'autre, mais il est vieux, hein? Il est vraiment un peu trop vieux et on retrouve ça fait un moment aussi qu'on a compris qu'il en avait plus rien à foutre. Donc voilà, c'était vraiment pour remplir le show au final, hein, semaine en semaine. Je pense pas qu'il y ait grand-chose qui puisse ressortir de ça. À part un Goldust Finn Bálor peut-être, si Finn Bálor doit se taper tout le roster avant d'avoir le droit d'aller au main event, mais
Et ça pourrait
ouais. Ça pourrait,
être
hein, ça pourrait être un truc sympa.
visuellement le démon contre le je sais même pas comment on appelle Goldust contre le gros doré là, ça pourrait
Voilà.
faire des paillettes. Après sur le ring je suis pas sûr, mais
Ouais. Puis je pense pas que Finn Bálor il va avoir besoin de sortir le démon pour mettre une fessée à
non je pense
Goldust.
pas non plus, mais ouais
Donc
je
voilà.
pense que c'est fini pour cette rivalité, j'espère. Je pense que Goldust, ils auraient dû lui, ils devraient envisager d'en faire plutôt un manager, hein, ça aurait pu être un de ses personnages aussi. Bon, enfin bon.
Ouais, Oui, c'est il a pas un très bon traitement pour ses figures. Enfin, je sais pas, ça lui donne du temps d'antenne, c'est quand même un push quand même, mais ça va nulle part. C'était fallait faire ça il y a 10 ans, hein. Puis maintenant, c'est trop tard, c'est bien trop tard. Je sais pas. Je sais pas jusqu'où ils vont aller avec ce pauvre Goldust. Pourquoi pas Main Event et Main Event, sinon.
Oh,
Mais
wow, c'est pas mal.
c'est. Ce serait pas mal pour lui, hein, comme ça on le verrait plus. Mais bon, ma foi, il faut bien une fin de carrière, donc
Oui,
on
oui.
verra bien, on verra bien.
Écoute, nous allons rester là pour ce segment. Il nous reste beaucoup de choses puisque ça fait depuis le début du show, j'en ai pas parlé, mais depuis le début du show qu'on a des petits segments qui nous promettent qu'on va avoir un petit bilan sur ce qui arrive à Braun Strowman, hein, puisque Braun Strowman, la veille, je pense que vous l'avez tous vu et que vous avez tous été horriblement choqué, a été écrabouillé dans une ambulance par un Roman Reigns qui a fait la marche arrière la plus violente de l'histoire du catch. Et depuis, personne ne sait comment va Braun Strowman. Donc, on nous promet un point sur sa santé. Et c'est Kurt Angle lui-même qui vient nous en parler. Kurt Angle, toujours aussi populaire, la foule l'adore et adore visiblement lui chanter son fameux You Suck, mais amical, bien sûr, je précise. Sauf que le truc, c'est que Kurt Angle, bah, il n'a pas vraiment d'infos à nous dire, puisque tout ce qu'il nous dit, c'est que Braun Strowman a refusé les soins, il est parti de lui-même, on ne sait pas s'il revient, on ne sait pas quand est-ce qu'il revient, en gros, on n'en sait rien. Donc, pour Braun Strowman, on passe, mais on en reste pas là. Kurt Angle nous introduit directement le nouveau, enfin le nouveau, le champion universel, qui est toujours champion universel et qui est là ce soir à Raw. C'est assez rare pour le souligner, c'est Brock Lesnar. Brock Lesnar arrive avec Paul Heyman. Ils sont visiblement contents de leur résultat de la veille. Or, Kurt Angle propose d'en profiter, hein, pour révéler qui, d'après lui, est le nouveau number one contender, qui va au prochain pay-per-view affronter Brock Lesnar. Enfin, au prochain pay-per-view, peut-être que je m'avance un peu, hein, au prochain ou dans 3 mois. En tout cas, quand Lesnar voudra se battre. Mais Paul Heyman, non, il veut pas. Il s'en fout, il dit que a priori il est pas trop fan de ces révélations au milieu du ring, que ce genre de choses ça devrait être annoncé en coulisses, que tout le monde n'a pas besoin de savoir. Bref, Paul Heyman et Brock Lesnar veulent partir sans même savoir leur prochain adversaire. Mais ils n'ont pas le temps de partir parce que Roman Reigns arrive, le Big Dog arrive. Bon, mais alors le Big Dog arrive, c'est lui le prochain number one contender? Ben pas vraiment d'après Kurt Angle qui est furieux, hein, qui dit à Roman Reigns, dis donc, t'es quand même vachement gonflé de venir te pointer là comme ça, tout brillant, tout pimpant, après ce que t'as fait la veille.
Assassin! Assassin!
Ouais, pas sympa quand même, hein. Et Roman Reigns, on sent qu'il a passé les dernières heures à travailler sa défense, hein, parce qu'il s'en sort plutôt pas mal, hein. Il dit non mais attendez, je suis avec Brock Lesnar, je suis avec Kurt Angle. Je suis avec le papa de l'extreme lui-même, Paul Heyman. Vous êtes les piliers, enfin les piliers, vous êtes des grandes légendes de l'Attitude Era, et vous venez me reprocher une petite marche arrière, ligne droite, comme ça, dans un parking de rien du tout. Et vous êtes quand même vachement gonflés, les mecs. Vous êtes devenus de vieux réacs, pire que des 68 tards à tarder. Bon, ben, Kurt Angle, il lui dit, ouais, non, mais hier c'était hier et maintenant c'est maintenant. Bon, voilà, une défense comme une autre. Roman Reigns, lui, il veut son title shot. Et Lesnar prend le micro. On l'entend assez peu parler, Lesnar. Il prend le micro, ce coup-ci, pour dire que Roman Reigns ne mérite pas du tout son title shot et il doit vraiment l'insulter très fort parce qu'il est carrément censuré par le script. Hein, mais a priori, c'est vilain ce qu'il a dit puisque tout le monde a l'air choqué dans la foule. Est-ce que tu sais ce qu'il a dit, toi, ringside?
Ouais, il a dû lui dire d'aller se faire enculer, un truc comme ça. Hein.
Ouais, j'ai pas cherché.
Je pense à un bon fuck ou un bon, une bonne saloperie dans le genre. Ah, ça suffit de nos jours à se faire exclure, hein, de certains sites de catch ou de se faire censurer à la
C'est
télé.
vrai. En tout cas, bah, Paul Heyman, lui, il avait l'air plutôt chaud à l'idée d'avoir un Roman Reigns contre Brock Lesnar, mais Brock, il veut pas. Là-dessus, Samoa Joe arrive. Lui aussi, il est pas content, il vient gueuler. Tout ce qu'il vient de dire, c'est que bah, Lesnar, il l'a pas battu la veille. Il s'est juste échappé de lui. Donc, il a réussi à éviter la défaite. Bon, en gagnant, certes, mais il a pas vraiment réussi à le battre. Donc, tous ces gens-là se disputent un peu. Et Paul Heyman, c'est intéressant à noter quand même, il prend fait et cause pour Roman Reigns. Il dit non, mais le beau Samoan, là, le beau gosse, celui qui a envoyé l'Undertaker à la retraite, lui, il vaut le coup. Mais Samoa Joe là, le Samoan que les Samoans veulent même pas qu'il soit Samoan, lui c'est un rebut, c'est un rejet, on n'en veut plus. Et Samoa Joe, il est vraiment pas content du tout. Tout le monde est sur le point de se battre, ça s'insulte, ça s'invective. Heureusement, il y a quand même un GM qui a une certaine prestance, un certain charisme, une certaine autorité, et il officialise ce qu'on pressentait depuis quelques minutes, c'est que la semaine prochaine, Samoa Joe et Roman Reigns vont s'affronter et le gagnant affrontera Brock Lesnar pour le titre universel. Donc, pour Roman Reigns, qui a donc broyé le pauvre Braun Strowman, aucune punition, aucune sanction, on repart comme en l'an 40, il va devoir affronter Samoa Joe qui n'a pour le moment jamais vaincu. Alors, est-ce que tu as aimé ce segment? Qu'en as-tu pensé? Et qui envisages-tu comme prochain challenger à Brock Lesnar?
Alors, je ne m'attarderai pas à donner un pronostic pour ce match entre Roman Reigns et Samoa Joe, mais c'est la première fois depuis longtemps qu'il y avait du star power, j'avais l'impression, à Monday Night Raw, entre Brock Lesnar, Kurt Angle. Alors, pour les vieux de la vieille, c'était assez émouvant de les voir tous les deux dans le ring parce ils étaient rivaux quand même hein, pendant longtemps à la WWE. Ils ont fait des affrontements titanesques et pas seulement à la WWE, ils sont aussi affrontés au Japon pour le titre IWGP. Donc, ça c'était sympa déjà. Ça parlait un peu dans le côté historique de la WWE et du catch en général. Roman Reigns, qui a toujours cette aura là de plus en plus croissante quand il arrive et qui scrute le public, il est monté à un level supérieur aussi. Et puis il a fait le buzz hein, complètement après ce segment extraordinaire à Great Balls of Fire là, avec l'encastrement d'ambulance. Paul Heyman, toujours un mec qui envoie aussi un peu du star system, puisqu'il est toujours là quand il y a des gros événements. Et putain, Samoa Joe, ça y est, il est monté dans le main event, il est monté, il est toujours autour de la title picture, il est toujours crédible. Je trouve que c'est un des meilleurs talkers de Raw, même de SmackDown, enfin de toute la WWE. Là, hop, il arrive à placer ses phrases, à se placer comme il faut. Là, il nous explique que voilà, Paul Heyman, écoutez Paul Heyman, écoute le Paul Heyman de Brock Lesnar parce qu'il te protège de moi. Hein, il veut pas que tu m'affrontes une deuxième fois. C'est ton avocat et il est là pour te protéger. Écoute-le bien. C'est super efficace. Bon, alors c'était un petit peu brouillon, mais bon, avec autant de personnes dans le ring, c'est un petit peu difficile quand même d'avoir un timing parfait. Mais putain, il y avait quelque chose qui se dégageait quand tous ces mecs-là étaient dans le ring, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qu'on voit pas quand il y a Rollins ou Ambrose dans le ring. Eux sont vraiment passés à un level supérieur et c'est assez. Il faut saluer Samoa Joe qui arrive à s'inscrire tout de suite dans le haut du panier, dans le main event. Maintenant quand il débarque, c'est un événement. Voilà, il tutoie les stars. Il est avec Brock Lesnar et aux côtés de Roman Reigns. Roman Reigns qui lui a eu tous les atouts de la WWE derrière lui. Ça fait un moment qu'on travaille le personnage et qu'on essaye de le monter. Il a vraiment réussi à graver les derniers échelons qu'il fallait là depuis sa victoire contre l'Undertaker. Donc là maintenant ça y est, quand il débarque c'est quelque chose. Joe il n'a pas eu tout ça. En quelques mois ça y est, il s'est imposé vraiment dans le haut de l'affiche, un peu à la star d'un AJ Styles. Alors peut-être encore en plus impressionnant. Donc voilà, moi je salue tout ça, je salue toute cette star power qui revient à Raw. Et puis je suis vraiment impatient de voir la suite et de voir ce match entre Reigns et Joe. Ça devrait envoyer du lourd la semaine prochaine.
Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Joe, il est excellent, quoi. Il dégage une impression de brute, mais le physique et le visage et la diction, ouais, est vraiment très très bonne. Il est bien plus à l'aise que bon, Roman Reigns, c'est pas mauvais non plus, hein, mais lui, il est dans son personnage à fond. Ils étaient tous très bons et il y avait beaucoup de star power, tu l'as dit. Et moi, je trouve que le fait que Lesnar ait parlé et même beaucoup parlé par rapport à ce qu'il fait d'habitude, ça renforce le côté bon, ben on est, il se met au niveau des autres, quoi. C'est plus Lesnar qui est sur
Exactement.
sa chaise longue.
C'est ça, tout ça. Ils travaillent les uns avec les autres et voilà, ça commence à ressembler à ce qui nous faisait arriver dans le temps avec vraiment des grosses grosses stars là. Donc non, vraiment très très bien.
Ouais, eh bien écoute, pour Kurt Angle, pourtant la soirée n'est pas finie, puisque le manager a regagné les coulisses, mais il est très vite rejoint par Corey Graves, qui a reçu un nouveau texto. On reprend cette histoire qui avait été un peu abandonnée ces 2 dernières semaines, cette histoire mystérieuse des textos, et Kurt Angle, il a l'air apeuré, il est très très inquiet, il dit que si ça se sait, c'est peut-être sa carrière, c'est peut-être sa famille, et il nous le dit enfin, qu'on va savoir la semaine prochaine, que la semaine prochaine, tout cela va devenir public, mais il a peur en même temps que cela devienne public, que ça soit ses adieux, ses au revoir. Alors Corey Graves est très rassurant, très presque paternel, hein. Il dit non mais tout le monde t'aime bien, tout le monde va être compréhensif, etc. En tout cas, on repart sur cette histoire et on devrait bientôt en avoir la clé. On y reviendra un petit peu plus tard, donc on passe, si ça te dérange pas, à ringside, on continue.
Oui, on en reparlera à la fin.
Et bien figurez-vous que les petits malins de la technique se sont précipités et ont eu le temps de mettre de la couleur violette sur les cordes. Et nous passons au petit segment Cruiserweight avec un match tag team. D'un côté, Tozawa accompagné de Titus O'Neil, et il fait équipe avec Cedric Alexander. Et en face, donc, on a Neville, le roi Neville, avec Noam Dar qui lui est accompagné d'Alicia Fox. Alors pour ce match, eh bien un tag team encore un tag team. On a beaucoup de tag team chez les Cruiserweight hein, chaque semaine. Noam Dar, il est toujours un petit peu dérangé par sa meuf qui lui parle alors qu'il combat. C'est toujours dangereux d'écouter sa meuf pendant qu'on fait un match de catch. Du coup d'entrée, il prend un bon coup de coude bien violent dans la nuque, dans la tête. Et ensuite, il est travaillé par Cedric Alexander puis par Tozawa qui font vraiment du très bon travail ensemble. Tozawa ensuite se retrouve face à Neville. Il le surpasse carrément, il le surclasse même. Et, Neville est un peu étouffé par la vitesse, par la force, par la puissance de Tozawa. Alexander, lui, il virevolte. Il est aussi très, très aérien et excellent. Et il s'occupe gentiment de finir Noam Dar à l'extérieur du ring, pendant que Tozawa fait tomber Neville à cheval sur les cordes, et donc Neville se retrouve les parties sensibles écrasées sur la troisième corde, une véritable revanche par rapport à ce qui s'est passé la veille à Tozawa. Alors le petit
C'est le karma, ça.
voilà, alors le c'est le karma. Alors le petit problème d'exécution j'ai trouvé, c'est qu'ensuite Neville reste pendant 3 heures là de assis sur les cordes à grimacer de douleur, pendant que Cedric Alexander et Tozawa font des petits trucs avec Noam Dar et part pour finalement que Tozawa réussisse à placer un Senton Bomb sur un Neville qu'il a fini par faire tomber sur le ring. Donc Tozawa réussit à porter un pin sur le champion, et c'est donc les gentils qui l'emportent. Alors c'était un petit clin d'œil de la veille, mais Tozawa reste dans la course. Qu'en as-tu pensé?
Pas grand chose, hein.
Ah.
Ça y est, j'en ai ras-le-bol des cruisers.
Oh.
C'est fini pour moi. Il m'insupporte désormais. Voilà, bah, la revanche de la veille, c'est un peu ridicule. Victoire de Tozawa, on dirait le fils de Titus O'Neil en fait, quand il arrive au ring, avec la différence de gabarit, je trouve.
Oui.
Et puis il agit comme un enfant. Voilà, après, bon, bah, le match, c'était ce que c'est habituellement les cruisers à la WWE, donc rien de très mauvais, mais rien de très bon non plus. Voilà, moi, je ne suis plus du tout client des cruisers, donc ça m'a ennuyé, comme je pense que ça va m'ennuyer encore pendant de longs mois.
Ben, bien, je sens qu'on risque de regretter au scénariste. Moi, j'ai un peu de mal. Je trouve qu'ils ont fait un excellent boulot avec Neville, et Neville a été très très bon ces derniers mois. Mais ils ont construit vraiment un personnage de méchant, hyper méchant. Et là, face à lui, c'est un peu comme tu dis, des gamins, quoi. C'est de la cour d'école, la Titus Brand. Bah, c'est pas
C'est
que.
ça, il mange toute la division,
C'est ça, puis
Neville.
s'ils deviennent champions, c'est. Ça casse le gag, quoi, je trouve, parce que et pourtant Tozawa vaut mieux que ça. Je suis déçu aussi du coup qu'on voit beaucoup moins des gens comme Brian Kendrick ou comme Gallagher que bref, ouais. Et puis Noam Dar et Alicia Fox. Alicia Fox en général, ça me saoule. Ouais.
Donc, ça. Puis il y avait par exemple Mustapha Ali qui était censé pêcher, bah, on le voit plus. Voilà, non, franchement, pour l'instant, je suis très, 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 encore une fois, très, très déçu de la division Cruiser et j'ai l'impression que ça va vraiment dans le mur. Si ça se trouve, Neville va rester champion ad vitam aeternam. Hein.
Oui, bah, ça serait peut-être le mieux. Écoute, on va passer. C'est un mauvais moment, on va passer, d'accord?
Oublions, vas-y. Passons à autre chose.
Eh bien, passons à autre chose, alors, parce que j'avais pas prévu d'en parler, mais je te sens troublé. On va juste glisser au passage qu'on a eu Seth Rollins avec Charlie Caruso. Ça te fait plaisir?
Bah écoute, ça me fait plus plaisir que quand elle est avec Paul Heyman, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe avec Paul Heyman, et j'avoue que ça me plaît pas du tout.
Ah oui.
Mais voilà, c'était très bien de voir la belle Charlie.
Eh bien, écoute, de toute façon, c'était la plus intéressante à voir, parce que Rollins n'a pas dit grand chose. Il a été coupé par une promo de Bray Wyatt qui n'a pas dit grand chose non plus. Et au final, nous terminons par un match entre les deux hommes, une revanche de la veille. Et la veille, eh bien, c'était d'une manière très surprenante Bray Wyatt qui avait réussi à l'emporter. Donc Bray,
exactement. Voilà. Surprenant, hein, il m'a niqué mes pronos, mais bon, c'est pas grave.
Ouais, moi aussi. Mais bon, Bray Wyatt commence donc à prendre le dessus assez rapidement. Puis il prend un kick assez violent alors qu'il est dans le coin du ring, mais bizarrement il le vend pas trop et très rapidement il percute Seth Rollins comme il fait là, en courant sur son adversaire en mettant un peu on sait pas trop ce qu'il met en avant, les coudes et le corps, donc il percute comme ça violemment Seth Rollins, il reprend l'avantage. On a un passage à l'extérieur du ring, Rollins redomine, il travaille la main de Bray Wyatt, je suis pas trop saisi pourquoi, mais il lui tord la main, il en veut à sa main, il veut lui faire mal à la main.
Bah parce que c'est le pouce avec lequel il a gagné Bray Wyatt la veille.
Ah oui.
Il s'attaque au pouce.
Ah
en
oui,
fait.
C'est vrai, le pouce, exact. Il s'attaque au pouce. Donc il s'attaque au pouce, j'avais pas suivi. Le public a l'air de ramollir un petit peu puisqu'il se met à faire une haut là.
Ah ouais.
Trop de raisons. Bon.
Un peu bizarre, un peu bipolaire hein, le public, parce qu'un peu plus tard ils chanteront This is awesome.
Ouais, donc.
Il faut savoir, hein, soit ils se font chier devant le match et ils font la hola, soit ils trouvent que c'est awesome. Hein, mais...
C'est ça.
Faut se décider un peu le public. Hein.
Alors, en tout cas, c'est vrai que très vite. La hola dure un petit moment quand même, mais elle est assez vite remplacée par des gros gros soutiens à Seth Rollins. Seth Rollins qui fait un gros match, hein. Il y a de l'opposition en face. Moi j'ai trouvé ça meilleur que la veille, en tout cas ça m'a laissé un meilleur souvenir. Il y a un très gros DDT de Bray Wyatt qui plante complètement Rollins. Ensuite il le travaille plutôt au niveau du cou, au sol. Ça se relève, ça s'envoie des kicks, ça s'envoie des claques dans la gueule. Suicide dive de Seth Rollins donc à l'extérieur du ring. Il prend vraiment le dessus, hein. L'architecte se remet à dominer, il enchaîne quelques near falls. Ça a failli passer, mais le Bray Wyatt réussit à placer un headbutt, donc un bon coup de tête, qui aveugle Seth Rollins. Hein, il voit plus rien, il sait plus où il est, et il sait tellement plus où il est qu'il ne voit même pas qu'il est présenté à la petite sœur Abigail. Et pour la deuxième fois d'affilée en 24 heures, encore une fois, ma grande surprise, Bray Wyatt l'emporte totalement clean sur Seth freaking Rollins. Alors avant de passer à la suite, déjà sur ce match, quelle est ton impression et que penses-tu du résultat?
Alors je te rejoins, j'ai trouvé que le match était meilleur que la veille. Donc bon, ça veut peut-être dire que comme d'habitude, quand ils ont fait l'opener, on leur a dit de pas trop en faire. Du coup, ils ont le droit de se rattraper pour le main event d'Euro. C'était meilleur, mais pas non plus. C'était pas du 4 étoiles. Hein. Ça reste encore un petit peu mou du genou. Rollins qui perd clean, effectivement. Alors on nous la joue deuxième aveuglement, quoi. Mais alors. Un coup de boule, c'est pas une manœuvre aussi traite qu'une fourchette dans les yeux, quoi. Alors bon, peut-être qu'il s'est pris une dread dans l'œil, ce qui fait qu'après il aurait pu avoir ce qu'il faisait, mais
Peut-être que la semaine prochaine il travaillera sur les dreads de Bray Wyatt ou
c'est ça.
La barbe.
Ouais. Alors d'accord. Par contre, effectivement, carton rouge sur Seth Rollins qui pique le comment dire le move de cassage de doigts là qu'utilise Marty Scurll chez là par exemple ou à la New Japan. Voilà, on fait semblant de casser les doigts de l'adversaire, mais alors j'aime pas trop déjà ça chez Marty Scurll, mais c'est un peu plus réaliste. Mais bon, comme il le fait à chaque match, au bout d'un moment, c'est un petit peu du déjà vu. Et Seth Rollins, il arrive pas trop bien à le faire parce que ça claque pas. Hein, on comprend pas trop qui vient de péter le doigt de de Bray Wyatt qui de toute façon ne vend pas derrière plus que ça. Donc ça c'est pas très cool de piquer un petit peu les prises des autres. Enfin si on peut appeler ça une prise. Et pour le reste, victoire encore une fois de Bray Wyatt dans l'indifférence générale, j'ai un peu l'impression. Est-ce que c'est bon pour Rollins de perdre comme ça des matchs clean contre Bray Wyatt? Est-ce que c'est bien pour Bray Wyatt de gagner comme ça des matchs clean? Je ne sais pas. On est un peu dans l'inverse de Samoa Joe et de Roman Reigns, c'est-à-dire eux, ils sont aussi du calibre de main event, mais ils n'y arrivent pas. Ça prend pas, il n'y a pas de star power, il n'y a pas d'implication. Les gens font là ou là. C'est un peu la série B de Raw, mais ce qui arrive derrière va peut-être relancer tout ça, même si ça sent bon la mid-card quand même.
Oui, on va de suite enchaîner. Alors, je reviens sur ce que tu disais. Bon, Seth Rollins, il eut réussi quand même. Et c'est vrai qu'après son retour et son putain de match contre Triple H à WrestleMania, qu'il bat clean, hein, et ils auraient pu, là aussi, ouais, t'as raison. Et Seth Rollins est un main eventer, il n'y a pas à chier, il a le
Bah oui.
potentiel pour. Bon, Bray Wyatt, il y a des limites sur le ring qui font que, mais ouais, on sait pas, c'est comme Finn Balor, ces mecs-là, on sent qu'un jour, mais là, pour le moment, on sait pas trop quoi en foutre. Bon, c'est lié aussi au fait que Brock Lesnar confisque la ceinture depuis 3 mois, hein, je pense, mais bon. En tout cas, tu as raison, la soirée n'est pas finie, puisque, si vous avez bien écouté ce que je disais il y a à peu près 25 minutes, je me suis complètement gouré, puisque c'est maintenant que le Miz Tourage arrive avec une chaise. Non, c'est maintenant que le Miz Tourage arrive, je m'embrouille avec ces histoires de chaises, tabasse Seth Rollins, que Seth Rollins est sauvé par Dean Ambrose qui arrive à ce moment-là avec une chaise. Voilà, tout à l'heure j'ai parlé de la chaise que Dean Ambrose utilisait sur le Miz, c'était pas du tout lors de la remise des Mizzy, c'était maintenant, excusez-moi, je delete complètement ce que je disais.
Mais écoute, il y a quand même Seth Rollins qui utilise le décor de Miss TV pour taper sur le Miss
Ah, c'est
Tourage. Et
ça.
il y a notamment Bo Dallas qui se mange un bon coup de c'est une espèce de bureau, de table comme ça, de
Ouais, le.
présentation qui était assez spectaculaire. Donc il n'y avait pas de chaise, mais il y avait quand même des objets contondants.
Tu es bien gentil, tu es bien gentil. Bon, donc voilà, sur cette fin de show, eh bien, le Miz et son entourage sont venus un petit peu. J'ai passé en milieu de carte, sauf que encore une fois, ils se font un peu rejeter, et c'est bien Dean Ambrose et Seth Rollins qui triomphent pour cette fin de show au milieu du ring. Pour cette fin de show, est-ce que c'est vraiment fini? Eh bien non, puisque alors que le public de Houston, Texas applaudit donc les anciens du Shield, en coulisses, Kurt Angle, qui visiblement ne regarde pas les main events de show, hein, est
Non.
au téléphone. Il est au téléphone avec quelqu'un de très important, puisqu'a priori, il est au téléphone avec quelqu'un qui est vraiment la clé de l'énigme de ces dernières semaines. Et il dit à cette personne, il lui dit de venir la semaine prochaine. Il lui dit de venir à Raw. Il lui dit qu'il n'y aura pas de problème, que ça va être révélé, mais que lui, Kurt Angle, il assume tout, il est fier même. Il est très fier. Il est très fier de cette personne. Et il raccroche même en lui disant I love you. Donc, alors on va peut-être
Voilà.
d'abord revenir sur le segment Mr. d'abord, qui semble nous promettre qu'est-ce que ça pourrait bien nous promettre? Que Dean Ambrose et Seth Rollins vont affronter les équipes du Miz, mais alors lequel des deux va s'y coller pour la ceinture intercontinentale? Est-ce qu'aucun des deux? Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, on va peut-être mettre le gain de la ceinture en stand-by pour avoir une rivalité entre les deux anciens du Shield et le Miss Tourage. Je suis assez impatient de voir des matchs avec Bo Dallas et Curtis Axel contre Dean Ambrose et Seth Rollins. Je pense que ça peut donner des trucs intéressants. Voilà, on voit où ils vont, Seth Rollins et Dean Ambrose. Dean Ambrose, il reste dans son programme avec le Miz, et Seth Rollins, il vient aussi. Voilà, on va aller dans le haut de la mid-card pour eux pendant un moment. Les cartes sont rebattues, mais pourtant ça reste un petit peu pareil pour Dean Ambrose. C'est relativement intéressant, mais on aurait peut-être préféré voir quelque chose de radicalement différent pour le Miz. Il va falloir tout le talent du Miz, encore une fois, pour garder de l'intérêt sur tout ça, je pense, hein.
Ben, moi j'aurais beaucoup signé pour une vraie feud entre le Miz Seth Rollins. Mais là, bon, écoute, moi je vais laisser le bénéfice du doute, hein. Le Miz fait toujours de l'or, de toute façon, c'est toujours très cool. Donc avec le Miz to Rage, il y a moyen effectivement que ça soit bien rigolo. Il y a moyen, c'est vrai, qu'il garde la ceinture intercontinentale quelques mois sans que personne ne vienne trop la lui réclamer, mais en même temps, autant Dean Ambrose, il a cette gimmick de fou furieux qui peut lui faire perdre des matchs mais qui pourrait gagner facilement, autant arriver à faire perdre de manière crédible Seth Rollins contre le Miz, c'est difficile. Donc c'est sûr qu'en 1 contre 1, il n'y aurait pas eu photo, quoi. La ceinture serait directement passée dans les mains de l'architecte.
Donc, est-ce qu'il serait pas bien avec la ceinture intercontinentale, Seth Rollins, tiens, après avoir enchaîné les défaites comme ça, récupérer le titre, ça pourrait être une bonne façon de se relancer aussi. À voir.
Oui, il serait bien, mais c'est vrai que j'aime bien que le Miz ait la ceinture quand même.
C'est réservé aux Miz.
C'est ça. Et alors, qu'as-tu pensé de ce final? Kurt Angle téléphonait-il? Déjà, est-ce qu'il te téléphonait à toi?
Non, c'est pas moi. Il m'a appelé plus tard pour autre chose, parce qu'il, comme il va déménager, il a besoin d'un coup de main, donc il voulait savoir si j'étais libre ce week-end. Évidemment, hein, c'est toujours pour ça qu'ils appellent. Mais alors, quel suspense! Ça fait des semaines qu'on nous travaille avec ça. Il y a des rumeurs folles, hein, qui courent sur Internet. La plus grosse, ce serait Dixie Carter, hein, l'ancienne patronne de la TNA, qui viendrait à Monday Night Raw la semaine prochaine avec une romance entre Kurt Angle et Dixie Carter. Ça peut être intéressant. Après, Dixie Carter, elle était pas terrible au micro, donc c'est à double tranchant, mais ça peut être intéressant pour les catcheurs du roster, parce qu'elle est connue un peu pour se taper tous les catcheurs de son roster, donc ça pourrait être sympa pour ceux qui sont un peu célibataires à Raw en ce moment. Ça peut être dangereux pour Stephanie McMahon, parce que si Triple H il se fait tourner autour par Dixie Carter, on sait pas, une MILF comme ça peut peut-être l'intéresser.
Je ne sais même pas quelle tête a Dixie Carter.
Tu sais
je
pas.
Regarde.
Ah bah écoute, tu googleras. Oui. Ma foi, c'est de la MILF, hein, comme on dit. Voilà, c'est exactement, oui. Non, bah écoute, on parle de catch, hein, aussi. On est pas...
Oui, c'est vrai.
C'est pas la revue littéraire de Saint-Germain-des-Prés. Donc, bah écoute, on reste encore dans le mystère. Hein. On attend d'être à la semaine prochaine. Je sais pas qu'est-ce que ça. Qu'est-ce que t'avais d'autres suppositions, d'autres.
Je sais pas. Et si c'était une fille Trump?
Ah, une fille Trump, ça, ce serait marrant aussi.
Ou la femme de Trump.
Ou la femme de Trump, tiens, tant qu'à faire, exactement. Ou Trump lui-même.
Dans une ouverture d'esprit totale. Bah écoute, moi, la façon dont je l'ai entendu parler, quand il dit I'm proud of you, donc je suis fier, je t'aime, je voyais plus un truc genre un enfant illégitime, mais ça fait gros, quoi. Parce que ça c'est vérifiable dans la vraie vie, alors qu'une romance, bon, tu peux te dire, je sais pas, j'ai pas regardé si Kurt Angle était marié ou quoi que ce soit dans la vraie vie, mais
ouais, je sais pas où il en est, lui, il y a eu des divorces, il a eu une période de vie assez difficile, donc je sais pas s'il est pas célibataire en ce moment. Toujours à regarder la bouteille en coin, tu vois, c'est qu'est-ce que je fais ce soir, est-ce que je la colle ou est-ce que je vais craquer ou pas. Excellent Kurt Angle quand même tout au long de la soirée. Oui. Ce fil rouge là, il a j'aime bien sa manière de jouer là, il était toujours dans le ton, il était toujours efficace. Et puis voilà, bah on est intrigué, on veut savoir, on reviendra la semaine prochaine pour savoir ce qui se passe, hein, tout simplement.
Eh bien, avant de revenir la semaine prochaine, de se projeter dans le futur, il est temps de faire le point sur ce Raw du 10 juillet, donc le lendemain de Great Balls of Fire. Qu'en as-tu pensé ringside? À toi de nous donner ton top, ton flop et ta note. Je t'écoute.
Alors, le flop, je vais le donner à Big Cass, hein, on va revenir tout au début du show, qui m'a pas du tout convaincu. Voilà, il va falloir qu'il fasse beaucoup mieux que ça s'il veut s'imposer dans le roster. Il peut pas compter que sur son physique, qui est quand même, comme je l'ai dit, pas si impressionnant que ça. Voilà pour le flop. Le top, ben, je vais le donner à Kurt Angle. Voilà, on revient à la toute fin du show qui était parfait de bout en bout, j'ai trouvé. Surtout qu'il y a eu beaucoup de gros plans sur son visage avec la caméra qui restait un peu trop longtemps, mais bon, il était toujours jusqu'au bout parfait. Et pour la note, alors ça va pas être une note trop haute parce que j'ai pas trouvé ça très passionnant. On va mettre un 2,75. Il n'y avait pas de moment exécrable hormis un peu ce qu'ils ont fait chez les filles et les cruisers, mais bon, j'ai pas été transcendé. Il y a eu un vraiment vraiment bon moment avec avec Brock Lesnar et compagnie. Ça se termine sur une jolie touche avec ce mystère autour de Kurt Angle, mais bon, le main event c'était du déjà vu. Voilà, toute la dernière heure c'était un petit peu mou du genou quand même. Voilà, donc ce sera ma note.
Très bien, très bien, c'est noté. Eh bien, moi, mon flop, je vais le mettre à Noam Dar et Alicia Fox. On va pas dire que j'attendais beaucoup, mais ces histoires de couple, déjà, c'est du caricatural au possible. C'est pas drôle, c'est pas distrayant, c'est juste relou. Et ça plombe un peu les cruiserweight. Mon top, je vais que tu as fort bien décrite, hein, la séquence des gladiateurs là, avec un Roman Reigns étincelant, un Samoa Joe tout en fureur, hein, on aurait dit un rhinocéros prêt à charger, un Brock Lesnar qui joue un peu son rôle de dieu de l'Olympe, hein, là il est en colère mais bon il est très serein, enfin ils ont tous été très bons dans leur rôle et ça donnait vraiment l'impression que ouais c'était le titre de l'univers, c'était les dieux qui vont se disputer le Saint Graal, et du coup, bah, moi, je vais quand même mettre 3, parce que ça m'a bien plu, j'ai bien aimé les Miz, tout ce qui est autour du Miz, c'est cool, j'ai assez aimé, moi, le main event, et puis Bray Wyatt contre Seth Rollins, c'était un joli match, donc au final, j'ai l'impression qu'en termes de temps, il y a eu plus de moments qui m'ont plu, je regarde un peu mes notes, hein. Les Hardys, c'était pas mal non plus, bon, il y a comme toujours les segments, bon, les filles, c'était nul, Arthur, c'est Goldust aussi, mais bon, je peux mettre un 3. Je vais être un peu plus gentil, toi.
Tu as bien le droit.
Eh bien, très bien. Bah, écoute, nous allons clore là-dessus cette analyse de ce fameux Raw de Houston, Texas. Donc, je rappelle à tout le monde, et tu vas m'aider là-dessus, Ringside, hein, parce que je présente beaucoup moins souvent que toi, que vous pouvez nous écouter sur YouTube, sur PodCloud, sur iTunes. Je crois que je n'ai rien oublié.
Écoute, on est bon, non? Tout à fait, c'est très
On est
bien.
bon, et eh bien, vous pouvez, selon les plateformes, nous mettre des pouces, des likes, des smiles, des cœurs, nous verser de l'argent aussi, hein, tout est possible. N'hésitez pas à nous donner en commentaire votre opinion sur ce show, à nous dire qui, d'après vous, va gagner entre Roman Reigns et Samoa Joe, qui va gagner entre Big Show et Big Cass, est-ce qu'ils vont mettre l'acronyme Big en jeu? Ça serait drôle, c'est un Big on a Pole match.
Excellent, ça, excellent, tout à fait.
Excellente idée.
Excellent. Écoute, on a un match du
Voilà.
drapeau pas loin, chez l'émission bleue, alors pourquoi pas, le jeu du gimmick, ouais.
Et ben voilà. Et ben écoute, on va clore. Et puis merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à rester, à vous abonner pour suivre aussi nos émissions sur SmackDown. Et puis nous serons, si ce n'est pas moi, ce sera, si ce n'est pas nous, ça sera nos collègues pour la semaine prochaine, pour le Raw suivant, où nous
N'oublions
serons
pas
donc.
Twitter et Facebook aussi, hein, Catch Up CDC pour les deux. On est aussi là-dessus.
On est partout et
Oui, c'est
restez
ça.
avec nous. Restez avec nous pour la semaine prochaine. Nous allons suivre tous ensemble la grande révélation qui, je pense, va changer la face de Monday Night Raw. Bien, merci beaucoup Ringside d'avoir été avec moi pour cet épisode.
Je t'en prie, c'est un plaisir.
Et voilà. Et puis, eh bien, bonne soirée à tous et bonne semaine pleine de catch. Ciao.
Ciao, ciao.